Bonsoir. Province du Katanga, l'évêque de Kilwa Kasenga signale un mouvement de Bakata Katanga depuis près de deux semaines dans les triangles de la mort, Pweto, Manono et Mitwaba. Monseigneur Fulgence Muteba craint que ces miliciens ne s'organisent pour attaquer et brûler les villages. En réaction, la 6e région militaire promet de mettre hors d'état de nuire ces miliciens. Quelle lecture faire de cette situation? Nous en parlons avec Monseigneur Fulgence Muteba, il est évêque de Kilwa Kasenga au Katanga. Bonsoir Monseigneur Fulgence Muteba.
Bonsoir.
Honorable Mwelwa Nsambi, il est député provincial élu du territoire de Pweto, il est membre du PPRD, chef de terre Kanswa Kikoko au Katanga. Bonsoir Honorable Mwelwa Nsambi.
Bonsoir, monsieur.
Et professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Bonsoir, professeur Félicien Kabamba.
Bonsoir.
Plusieurs réactions, parmi lesquelles celle de Robert Kamandani, de Bukavu Sud-Kivu, aussi longtemps que tous ceux-là qui soutiennent cette milice, de près ou de loin, ne seront jamais connus et mis hors d'état de nuire. Cette milice fera toujours parler d'elle au Katanga. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Un mouvement de Bakata Katanga est observé depuis près de deux semaines dans les triangles de la mort. Selon l'évêque du diocèse de Kilwa Kasenga, ces miliciens proviendraient des environs de Lubumbashi et se dirigent vers les vallées du territoire de Mitwaba. Monseigneur Fulgence Muteba craint que ces miliciens ne se réorganisent pour attaquer et brûler des villages. C'est près la catholique, joint par Denise Maéo.
Les paysans attestaient qu'il y a un mouvement massif, Mai Mai Bakata Katanga, qui quitte la région de Lubumbashi pour se rendre dans les triangles de la mort. Alors, on a d'abord vu un groupe de 12, c'était des jeunes gens qui ne parlaient à personne et qui apparemment connaissaient le chemin. Et puis, on a vu un plus grand groupe, c'était difficile d'avoir un chiffre précis. Alors, à leur passage, ils arrachent tout ce qui se trouve dans le champ, mais il y a déjà quelque chose qui nous inquiète, c'est que cette politique de la terre brûlée augure qu'ils veulent avoir un territoire pour eux, mais malheureusement, ils ne l'administrent pas, prennent des gens en otage, c'est une situation très dramatique. Tout porte à croire qu'il y a un afflux, justement, des Bakata Katanga qui ont dégarni les alentours de Lubumbashi pour rentrer dans leurs fiefs, dans les vallées, les collines du territoire de Mitwaba en particulier.
En réaction, la 6e région militaire dit prendre en compte cette inquiétude et promet de mettre hors d'état de nuire ces miliciens. Écoutons le général Mboyama Siona, commandant de la 6e région militaire, au micro de Madeleine Waila.
Je crois que cette inquiétude est légitime. Comme vous savez, je voudrais d'abord rassurer cette population de Kasenga en particulier et celle de tous les districts du Haut-Katanga en général que nous avons la mesure de la menace. Comme vous savez, nous avons eu une grande réunion. Nous préparons la tripartite MONUSCO, gouvernement provincial et partenaire en ce qui concerne justement la traque de ces inciviques dans, non pas le triangle comme vous le décrivez, mais maintenant c'est pratiquement un rectangle parce que ça comprend Moba, Manono, Malemankulu, Mitwaba et Pweto. C'est un rectangle dans, en fait, où ils sont en train de se diriger. Mais que la population soit rassurée, leur armée est en train de planifier Kifakio 2 qui va procéder au nettoyage de toute cette zone-là. Et bientôt, avec la fin de la saison des pluies, je crois qu'ils n'auront pas assez de repères pour se cacher. Bientôt, nous allons lancer une vaste opération pour nettoyer cette zone-là. C'est vrai qu'il y a des inquiétudes parce qu'ils sont en train de ravager le champ, parce qu'ils sont à court de logistique.
Monseigneur Fulgence Muteba, vous affirmez qu'un mouvement des Bakata Katanga est observé depuis plus de deux semaines dans les triangles de la mort, et donc à Mitwaba, Pweto et Manono. Vous partez de quels éléments pour faire cette affirmation, ou qu'est-ce qui justifie la crainte que vous exprimez?
Bien, on les a vus passer, hein, des jeunes gens très déterminés, avec des uniformes neufs, avec des fusils neufs aussi. Ils rentrent dans les territoires où ils ont toujours opéré, Alors, on a vu d'abord, comme je l'ai dit, 12 personnes qui sont passées et qui ne posaient des questions à personne. Ça signifie que c'est des gens qui connaissent bien la région. Et puis, on a vu un plus grand groupe et ça, ça nous inquiète. Je suis heureux que le commandant de la 6e République dise qu'il y a une opération qui va commencer. Mais ce que nous voudrions, nous, c'est qu'on puisse effectivement rétablir la paix dans cette partie du Katanga qui a trop souffert. Nous avons trop de déplacés de guerre et qui ont à peine une assistance humanitaire. Et nous craignons effectivement que ce Maïmaï Bakata Katanga ne puisse se réorganiser pour nous faire un coup fourré. Les gens ont trop souffert et nous avons peur qu'on les fasse souffrir davantage.
Oui, Monseigneur, vous dites qu'ils ont des armes et ils portent des uniformes neufs. À votre avis, ils sont approvisionnés par qui?
Bien, ça c'est la question énigmatique. Je n'ai pas d'éléments de réponse à cette question. Mais tout porte à croire que quand on voit de quelle manière chaque jour ils s'équipent, on peut imaginer qu'ils sont ravitaillés par des milieux occultes qu'il faut dénicher. Et pour nous, comme les évêques du Katanga l'ont dit, il est important qu'on réponde à la question de savoir qui a fait sortir Gédéon de la prison de la Kassapa. Et si nous avons une réponse à cette question, je pense que beaucoup de lumière se fera sur l'origine des équipements qu'ils ont. Mais ce qui est vrai, c'est que certainement un mot d'ordre. Il y a effectivement des sanctuaires de ces compatriotes égarés qui sont restés actifs malgré toutes les campagnes qui ont été orchestrées dans le rectangle de la mort, comme le général l'a appelé. Effectivement, ça n'est un, ce n'est plus un triangle. Eh bien, nous pensons effectivement qu'on doit faire des efforts pour connaître qui les approvisionne.
Vous affirmez qu'ils proviendraient des environs de Lubumbashi. Cela veut dire que ces miliciens se trouvent dans les environs du chef-lieu de la province du Katanga?
Bien, ils sont venus de là, et tout le monde le sait. Ils étaient non loin de Kinsevere, ils étaient même partis jusque dans les territoires de Kipushi. Il y a certainement un certain nombre qui s'est rendu. Mais ceux qui sont restés actifs, ils rentrent dans leur fief d'entraînement et comme c'est un territoire assez grand et c'est dans la forêt, la jungle la plus classique, eh ben nous pensons effectivement qu'ils ne rentrent pas pour rien, c'est pour se réorganiser. Il est temps qu'on puisse agir pour les neutraliser.
Monseigneur, une autre attaque de Bakata Katanga avait été signalée samedi 22 mars dernier dans les groupements de Muhombe, Kalonga et Mukana du territoire de Mitwaba. Et selon la société civile locale, ces miliciens avaient incendié 8 villages, pillé des maisons et emporté 6 personnes, dont un vaccinateur qui était en pleine opération de vaccination. Décidément, rien n'arrête les miliciens Bakata Katanga, Monseigneur.
Effectivement, côté territoire de Malembankoulou, mais dans le de Mitwaba, au confrère avec Bouito, le 5 mars et le 6 mars, ils ont commis encore des exactions, ils ont incendié pas moins de 6 villages. Malheureusement, les médias n'en ont pas parlé. Bon, évidemment, ce n'est pas toujours facile d'avoir des informations en provenance de cette région. C'est pour dire effectivement que, bon, rien ne les inquiète. Ils ont une capacité de se réorganiser, qui est évidente à la présence des FARDC depuis quelques mois, mais je crois savoir qu'ils n'ont pas reçu l'ordre d'attaquer, mais plutôt l'ordre de se défendre en cas d'attaque. Alors les Maïmaï sont habitués à ce jeu, alors quand on les attaque d'un côté, ils prennent la forêt et puis ils se rebellent. C'est des territoires entiers. La présence de l'État ni la présence militaire. Vous allez me dire, mais il y a les forces de l'ONU qui sont arrivées. Bien sûr, elles sont basées à Pweto, mais Pweto n'est qu'un point. C'est, j'allais dire presque c'est une goutte d'eau dans l'océan. Alors, il y a un territoire entier où il n'y a pas une présence militaire efficace. Les militaires que nous avons, par exemple, à Kabango, dans les diocèses de Kilwakasenga, bon, ils sont impayés depuis des mois et ils ne sont pas équipés, ils ne sont pas motivés. Alors, ils sont là, dans l'attentisme, et ils attendent d'être attaqués pour répliquer. Moi, je pense que, bon, si on prend des mesures efficaces, il y a moyen de mettre fin aux exactions de ces compatriotes égarés.
Monseigneur, l'on parle de ces trois territoires, Mitoaba, Pueto et Manono, considérés comme triangle de la mort. Là, on parle maintenant du rectangle de la mort avec les territoires de Malembankoulou qui s'est ajouté. Et tout cela, c'est à cause, n'est-ce pas, de l'activisme de ces Bakata Katanga. Peut-on aujourd'hui affirmer que ces territoires échappent totalement à l'autorité de l'État congolais?
Bien sûr, c'est un territoire qui échappe à l'autorité de l'État congolais. Et je dois avouer que le gouvernement provincial fait des efforts, et je suis moi-même témoin de ces efforts. Les militaires ont reçu des véhicules, le gouvernement provincial a même donné des vivres aux militaires, mais nous pensons effectivement qu'il faut conjuguer les efforts. Et là, le gouvernement central est interpellé. J'ai senti une déception exponentielle, et c'est une déception qui m'inquiète. C'est déplacé, même les familles d'accueil se sentent franchement abandonnées. Il y en a qui m'ont dit, mais est-ce que nous sommes nous aussi des Congolais comme les autres de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu ou pas? Donc c'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons écrit, et ce que nous faisons c'est juste pour que les gens puissent retrouver la paix et qu'ils puissent flaquer à leurs occupations habituelles, qui cultivent leur champ, et ils ne demandent pas plus.
Merci, Monseigneur. Honorable Mwelwa Nsambi, député provincial élu du territoire de Pueto, vous êtes membre du PPRD, chef de terre Kanswa Kikoko Katanga. Quelle lecture vous faites de cette situation?
J'aimerais bien vous remercier, monsieur Guy.
Oui.
Pour nous avoir intéressés à cette situation. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord saluer l'influence de Véry de Kilo Kasenga, les remercier pour toutes les informations qu'il vient de vous donner là-bas. Je viens de suivre toutes ces déclarations. Je crois que ces déclarations viennent de donner les détails. Parce que tous les détails de ce qui se passe, des situations qui se passent avec les Maï Maï et les Bakata Katanga dans le triangle de la mort. Donc, Mitoaba, Pueto, Manono.
Oui, honorable, vous avez suivi Monseigneur Fulgence qui a dit qu'il voit plutôt ces jeunes qui portent des armes et qui portent des tenues des uniformes neufs, et on lui a posé la question de savoir quelle est leur source d'approvisionnement. Il a répondu en disant que c'était une question énigmatique. Vous, en tant que député élu de Pueto et chef de terre, pouvez-vous connaître la source de provenance d'approvisionnement de ces miliciens Bakata Katanga?
Merci beaucoup. En tout cas, il est vraiment difficile, de vous dire qu'on peut connaître la source d'approvisionnement. Parce que connaître la source d'approvisionnement, nous, en tant que députés, ou moi, en tant que député sur les terres, je l'ai déjà dénoncé depuis longtemps. Donc, je n'ai pas d'informations sûres pour dire qui est derrière Bakata Katanga ou de Maï Maï. En tout cas, j'ai pas de sources sûres, mais la vérité est qu'au fait, ils ont des armes, ils ont même des tenues, et ça ne vient pas du vide. Ça doit être quelque part. Vous savez, j'ai suivi Monseigneur, l'évêque, qui a parlé de, moi je peux appeler ça la libération de Gédéon Moutanga là ici, parce que c'était pas une fuite de la société, mais c'était, moi je l'ai toujours appelé un certain jour, il l'avait dit au Parlement, que c'était une sorte de libération politique de ce seigneur de guerre. Alors, il doit y avoir des gens qui sont derrière, donc, ce mouvement-là, que nous cherchons, nous tous à connaître.
Honorable.
Que nous ne connaissons pas jusque-là. qui pouvait être guérie à ce moment-là.
Honorable Mouelwa, vous parlez de, vous évoquez Gédéon, l'évêque a aussi évoqué la libération de Gédéon. Est-ce qu'on peut établir un lien entre la libération de Gédéon et, en fait, l'évasion de Gédéon et les phénomènes Bakata Katanga?
Effectivement, puisque quand Gédéon était arrêté, à la prison de la Kassapa. Le mouvement avait été arrêté, c'était devenu le calme. Il y avait un calme à Mitwaba, un calme à l'électeur de Pote Consort. Mais quelques temps après la libération de M. Gédéon, la situation a repris. Donc, on ne peut pas douter que cette libération, je l'appelle bien une libération, cette libération avait une vision de quelques politiciens.
Oui, honorable, vous...
Allô?
Oui,
effectivement, ces politiciens cherchent, si on les appelait là, les Bakatakatanga, ils cherchent à libérer les Katanga, je ne sais pas de quoi, ils cherchent à libérer le Katanga.
Oui, honorable, vous parlez d'une libération. Il ne s'est pas agi, n'est-ce pas, d'une évasion.
Non. Bon, on avait parlé d'une évasion. Comment voulez-vous la prison de la Kassapa? Juste à côté, se trouve un camp militaire. Comment est-ce que, avec tous ces coups de feu, pourquoi est-ce que les militaires qui étaient dans les environs là-bas n'étaient pas intervenus?
Oui, honorable, c'est une situation dont on parle depuis plusieurs années. C'est tout le jour qu'on dénonce, n'est-ce pas, l'activisme de ces miliciens Bakata Katanga. Pourquoi, à votre avis, les choses ne changent pas? Au contraire, la situation ne fait qu'empirer.
Bon, les choses ne changent pas parce que jusque-là, on ne sait pas justement, dire qui est derrière ce mouvement. Au moment où on va connaître qui est réellement derrière ce mouvement, qu'est-ce qu'il cherche, à ce moment-là, je crois que les choses pourront changer. Parce qu'on va interpeller ou appeler ces gens-là pour les arrêter, les entendre et se trouver une solution à ce problème. Aussi longtemps qu'on ne sait pas mettre la main sur les gens qui sont derrière ce mouvement, donc les autorités qui sont derrière ce mouvement-là. Ce sont les jeunes gens là qui sont, ce sont des petits villageois qu'on ramasse, qu'on a trompés et qui viennent, je ne sais même pas pourquoi ils prennent les armes, pourquoi ils veulent libérer les Katanga ou les trompes, parce qu'ils ne connaissent rien même de la politique de notre pays.
Oui, au cours d'une rencontre avec les responsables des partis politiques à Lubumbashi au mois de janvier dernier, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyege, avait annoncé que le gouvernement congolais était déterminé à éradiquer ces phénomènes Bakata Katanga et que cette éradication se fera par deux voies. Il a parlé de la carotte et les bâtons. Près de trois mois après, qu'est-ce qui a changé à Pweto, Mitwaba et Manono? Et aujourd'hui, on parle des Malemanko.
Ah, pratiquement, chez nous, on dirait, à Pweto Consort, il n'y a rien qui a changé. Parce que le déplacement de la population est vraiment intense. Pour le moment, je vous dirais, par exemple, en territoire de Pweto, dans la chefferie Tionazini, les gens sont regroupés seulement à Mutabi, là où il y a une protection des militaires qui sont là, et à Kabango. Le reste des villages là-bas, nous avons l'axe Mutabi, Kasongomwana. Nous avons l'axe Mutabi, Kampangwe. Nous avons là-bas l'axe Mutabi, Mwenge. Tous ces axes là-bas sont vides. Les gens se sont déplacés, les uns vers la Zambie, les autres le long du lac Moro.
Oui,
quand je vous parle ici, ça doit être le jeudi. Le jeudi dernier, le 27, il y a eu une attaque de ces gens-là dans une localité de Mukuba, dans le groupement Kuba-Bukongo.
Voilà, professeur.
Nous avons quelques éléments de choses, de le consolo.
Merci, professeur Félicien Kabamba. Je rappelle que vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. L'insécurité est devenue récurrente dans cette province à cause surtout de ses combattants Bakata Katanga. Comment vous analysez cette situation?
Merci beaucoup. Je voudrais saluer l'honorable ainsi que mon seigneur qui sont exprimés avant moi. J'ai écouté les récits véritablement apocalyptiques de la part de Monseigneur, qui a vécu des événements très atroces, et la narration qu'il en fait est véritablement suscite beaucoup de larmes, fait couler beaucoup de larmes dans les yeux de beaucoup de Congolais. Je voudrais ici dire qu'en fait, cette situation que vivent de nombreux Congolais qui sont installés au Katanga a été aussi vécu par de nombreux Congolais qui vivent à l'Est. Mais qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? En fait, je crois que Kinshasa doit changer d'approche. Il y a là, véritablement, quelques constats qui avaient été faits. Premier constat, c'est qu'en fait, Kinshasa semble prendre au sérieux un mouvement insurrectionnel dès lors que celui-ci menace le pouvoir central. On a vu que Kinshasa a réagi quand les Bakata Katanga avaient attaqué le Lubumbashi. Donc on sait, bien entendu, que le Lubumbashi est un bras très important du pouvoir central. Et on a vu également que le mouvement insurrectionnel qui se développe loin de Kinshasa ne sont pas suffisamment menacés par Kinshasa. Et par contre, on a vu que Kinshasa avait réagi de manière assez brutale contre le mouvement Bundundia Congo qui était juste à côté ici. Question qu'on peut se poser, est-ce que Bundundia Congo était un mouvement insurrectionnel, oui ou non? Et donc, tout mouvement qui se développe dans l'interland de Kinshasa n'a pas beaucoup de chances de réussir parce qu'il menace le pouvoir de Kinshasa et donc Kinshasa le frappe avec une grande sévérité. Par contre, les nombreux mouvements insurrectionnels, les nombreux mouvements armés qui se développent tant à l'Est qu'au Katanga, eh bien, Kinshasa compose avec et c'est l'impression qu'il nous donne. Il faut absolument que Kinshasa change de fusil d'épaule, que Kinshasa tienne compte du fait qu'en fait, tout mouvement insurrectionnel, d'où qu'il se trouve, menace l'État dans son existence et dans son essence. Oui. Troisième constat, c'est qu'en fait, Kinshasa semble s'être accommodé avec le partage de la violence, avec les groupes armés, au point de trouver en cela une réalité banale. Et ça, c'est étonnant. Et c'est cette banalisation du partage du monopole de la violence qui caractérise la gestion des milices armées par Kinshasa. Vous n'avez pas, au niveau de Kinshasa, une véritable politique de gestion des milices armées. Elles sont devenues nombreuses parce qu'on les a tolérées, parce qu'on s'en est accommodé. Il faut absolument que Kinshasa change de politique en matière de la défense et surtout de la gestion des milices armées. Ce qui arrive aujourd'hui au Katanga n'étonne personne. Ça a été là un mur de gestion de l'État. Et aujourd'hui, on vit des situations totalement apocalyptiques. Mais est-ce que c'est la première fois qu'on les vit? On a comme l'impression que Kinshasa les tolère et même les comprend. Il faut absolument un changement d'approche et de paradigme par Kinshasa. Et quand vous regardez aujourd'hui, le mouvement Bakata Katanga, tout le monde le dit, tous mes deux prédécesseurs le disent, semble être devenu pratiquement une nébuleuse. C'est une nébuleuse qui n'a bien entendu pour nous, mais Kinshasa a tout le moyen de connaître la nature réelle de ce mouvement. Kinshasa a tout le moyen, les services de renseignement sont là, tous les services d'intelligence, le ministère de... Tous ces services sont entre les mains de l'État, et donc l'État a les moyens, non seulement de connaître exactement qu'est-ce qui se passe au Katanga, qu'est-ce que c'est que le mouvement Bakata Katanga, mais a aussi les moyens de les combattre. Et oui. Aujourd'hui, on se pose plusieurs questions. Ce mouvement qui n'a pas de base arrière, c'est-à-dire qui n'est appuyé par aucun pays extérieur. Allez, où est-ce qu'il tire ses revenus? C'est-à-dire qu'il tire ses complicités à l'intérieur du pays. Mais ses complices, là, c'est qui? Je crois que là, véritablement, il y a des questions à se poser. Qui sont les soutiens? Comment ce mouvement sera vital? Toutes ces questions-là, moi je crois que Kinshasa a les réponses appropriées à apporter et doit suffisamment communiquer sur ce qui se passe au Katanga.
Oui, professeur, vous dites que à partir du moment où ces mouvements sont contenus, n'est-ce pas, dans certains territoires, à partir du moment où ils ne menacent pas directement les pouvoirs centraux de Kinshasa, Kinshasa ne voit pas l'importance d'utiliser les moyens forts, n'est-ce pas, pour les défaire. Donc on peut aussi dire la même chose au sujet de cette panoplie des groupes armés qui sévissent au nord Kivu dans certains territoires et qui sont là depuis plusieurs années et contre lesquels aucune opération militaire n'a été menée.
Exactement. Si ces mouvements étaient localisés ici au Bas-Congo ou dans le Bandundu, je peux vous dire, je peux vous certifier que quand vous regardez le mode opératoire de Kinshasa, Kinshasa aurait utilisé tous les moyens pour le mater. Mais dès lors qu'ils sont relégués un peu plus loin, c'est-à-dire qu'ils ne menacent pas directement le pouvoir de Kinshasa, il y a une sorte d'accommodation de Kinshasa avec les groupes d'armes. Et ça, c'est inquiétant. C'est une approche qu'il faut absolument changer. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'applaudir aujourd'hui les efforts que le gouvernement déploie pour commencer petit à petit à éliminer ces mouvements armés. Mais il faut aller plus loin. Il faut les éliminer tous. Il ne faut pas les tolérer. Il ne faut pas s'en accommoder.
Monseigneur...
Parce qu'on parle de Bakata Katanga. Quand vous regardez le mode opératoire de Bakata Katanga, ainsi que les cibles de ce mouvement, on se rend bien compte si ce mode opératoire et ses cibles sont en adéquation ou non avec les objectifs d'un mouvement sioniste. Ce mouvement se veut sioniste, mais ce sont des mouvements qui attaquent les villages entiers, qui éliminent, qui rasent les mouvements entiers, donc les villages entiers. Ça, c'est la forme la plus cynique et la plus inhumaine des mouvements armés. Il faut absolument que Kinshasa, parce que Kinshasa a autre, entre autres pour fonction d'assurer la sécurité de personnes. Et vous savez que quand on a créé l'État, la première fonction de l'État, c'était d'abord d'assurer l'ordre et la sécurité publique.
Merci,
les
professeur.
Autres fonctions sont venues après. Mais dites-moi, quel est cet ordre, quelle est cette sécurité que Kinshasa assure à ses citoyens? Là, véritablement, on est au cœur de la question même de l'essence du pouvoir et de l'État d'une manière générale.
Merci, professeur. Monseigneur Fulgence Muteba, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Kinshasa.
Jacques Kalunji Biku, depuis la commune de Kinshasa, dans la ville de Kinshasa. Comment expliquer l'instabilité actuelle dans les Katanga, province pourtant réputée depuis un temps, une province calme? Après le Kivu, l'insécurité s'installe désormais au Katanga, les forces négatives s'y installent, les forces des Nations Unies sont présentes. Y a-t-il un enjeu politique, sécuritaire ou économique derrière cette situation qui se développe avec vitesse?
Oui, Monseigneur Fulgence Muteba.
Effectivement, oui, c'est un fait vraiment étrange, hein, parce que comme l'intervenant vient de le dire et le professeur l'a dit, bon, le Katanga occupe une position stratégique en République démocratique du Congo. Je crois que pas moins de 35% du PIB proviendrait d'ici. On est étonné effectivement de voir que le gouvernement central, parce que c'est de lui qu'il s'agit, et c'est lui qui est le premier responsable de la sécurité des personnes et des biens, ne prend pas la situation très au sérieux. Et là-dessus, je suis très très d'accord avec le professeur, qu'il faut changer d'approche. Hein, cette vision minimaliste de ce qui se passe ici nous choque beaucoup. Ah oui, vous savez, quand nous entendons par exemple le gouvernement dire que bon, la situation sécuritaire sur toute l'étendue de la République est relativement calme, à part quelques poches de résistance des foyers de tension qu'on observe dans l'Ituri, au nord et au sud Kivu. Ça retentit avec beaucoup de déceptions dans les oreilles de nos populations d'ici. Il y a effectivement des enjeux politiques, et comme je l'ai dit un peu plus tôt, il est important qu'on réponde justement à cette question. Je crois que l'honorable Mme Sambi l'a dit aussi, hein. Il est important qu'on réponde à la question de savoir qui a fait évader Gédéon de la prison. Moi, je pense que à partir de là, on peut avoir quelques lumières. Il y a aussi des enjeux politiques qui fait qu'il s'agit de la province dont le chef de l'État est originaire et des enjeux économiques. On veut, n'est-ce pas, stopper l'élan économique du Katanga actuel, l'élan qui est positif. Alors, ce sont tous ces éléments conjugués, n'est-ce pas, qui expliquent ces phénomènes. Mais On tend à le constater, les mouvements insurrectionnels deviennent comme la seconde nature de la RDC, mais je crois que c'est une situation qu'il faut absolument changer. Mais la difficulté avec les Bakatakatanga, c'est que bon, c'est une forme de banditisme collectif à grande étendue, qui n'a pas d'objectif précis. Bon, on vous dit on veut couper les Katanga, et ceux qui les disent ne connaissent même pas les frontières du Katanga. La question que nous leur posons, mais est-ce que c'est vraiment par ici, même s'il faut s'exprimer politiquement, faire des revendications, est-ce que c'est vraiment par les villages qu'il faut commencer et quel impact ça peut avoir? Maintenant, l'impression qu'on est en train de s'amuser avec la vie humaine, qui est pourtant sacrée, et on est en train de faire souffrir des paisibles citoyens des villages. Et remarquez que c'est depuis des années que le nord de mon diocèse, par exemple, souffre. Et chaque fois qu'on y trouve une solution, c'est une solution éphémère. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que bon, il y a des solutions illusoires à caractère un peu folklorique qu'on tend à faire voir à la télévision. On fait des campagnes dans des villages, pas dans des villages, mais dans des villes. On vient rassembler des gens qui vivent dans des maisons climatisées, mais on ne touche pas le vrai problème. Et je suis donc d'accord qu'il faut absolument changer d'approche. Et j'ai entendu des gens dire que pour eux, être du côté de Bakatakatanga ou du côté du gouvernement, c'est presque la même chose. Je suis tenté de leur donner raison parce que la déception est vraiment grande.
Oui, Monseigneur, vous avez dit que c'est pour eux qu'on cherche à stopper l'élan économique du Katanga. Stopper l'élan économique du Katanga en utilisant les enfants de cette même province, vous pensez que c'est logique?
Non, mais c'est vraiment cynique, c'est absurde. Alors, c'est vraiment absurde parce que les premiers bénéficiaires justement de cet élan économique grâce aux efforts du gouvernement provincial, ce sont des Katangais eux-mêmes. Alors, il est vraiment étrange de constater que ce sont des propres enfants du Katanga qui sont en train de manipuler des petits villageois et qui projettent vraiment une image déplorable de notre province qui pourtant est une province qui est vouée à un avenir radieux.
Honorable Mueloa Sambi, il y a Kasamba de Bunia en province orientale qui dit la légèreté avec laquelle les Bakatakatanga sont traités par le gouvernement national démontre qu'il y a anguille sous roche. Honorable.
Oui, effectivement, nous on aurait souhaité que le gouvernement central puisse agir sérieusement comme il a agi avec les mouvements donc à l'est. À l'Est avec le M23 là, rapidement organiser une équipe qui peut commencer à faire le ratissage pour renvoyer, récupérer tout ce monde là qui est en train de voler, violer, malmener la population. D'ailleurs, ici au Katanga, vous voyez quand on voit ici les Bakatakatanga, ce ne sont pas aussi organisés comme les gens du M23, parce qu'avec les gens du M23, là, c'était des troupes, donc des groupes armés, bien organisés, même soutenus par les grandes forces. Mais ici, bon, ce ne sont pas des grandes forces comme les mois, parce que quand on voit même leur comportement, même les armes qu'ils ont, ce ne sont pas les armes qu'on a utilisées à chose, au niveau de l'Est là-bas. Donc, il suffit simplement d'une organisation sérieuse pour qu'on puisse mettre fin à ces mouvements ici, qui est en train de malmener la population de notre Katanga et de notre territoire.
Honorable Mueloa Nsambi, la deuxième partie de cette émission, que faut-il pour pacifier cette partie de la République? Nous allons prendre pour vous cette question qui vient d'Mbujimayi au Kassai Oriental.
Galvani Platide Tchouk, Mbujimayi au Kassai Oriental. Cette situation de Bakatakatanga devient de plus en plus embarrassante vu le dégât humanitaire qu'elle cause ainsi que leur méthode de la terre brûlée qui fragilise le développement de la province. Pendant l'implication de tous les notables de cette province dans la sensibilisation des jeunes à la reddition, une action militaire de FRDC contre tous ceux qui résistent au désarmement volontaire peuvent être une solution à cette crise. Mais aussi les gouvernements qui doivent rendre la vie civile des jeunes plus attrayante que celle menée dans les groupes armés.
Voilà, honorable, cet auditeur a évoqué plusieurs pistes. Il évoque notamment l'implication des notables dans la sensibilisation, l'amélioration des conditions de vie des jeunes et les opérations militaires.
Oui, je crois que la sensibilisation a été, l'opération de la sensibilisation a déjà été menée. D'abord par l'Assemblée provinciale, le président de l'Assemblée provinciale. Même dernièrement ici, il est parti avec une équipe de notables, de grands notables du Nord Katanga pour sensibiliser les jeunes gens à ce qu'ils puissent déposer les armes. Et pour le moment, nous disons que le gouvernement central vient d'envoyer une équipe d'Amonisco au niveau de Poitou, mais comme a dit le Monseigneur, c'est vraiment une goutte. On aurait souhaité que ce soit non seulement à Poitou, mais que ce soit plutôt aussi à Mitoaba et dans tous les territoires qui constituent le triangle ou le rectangle, comme a dit le professeur, qu'on puisse vraiment, une action militaire soit vraiment prise avec du sérieux, avec détermination, comme on l'a fait avec l'M23.
Oui, honorable, 11 chefs coutumiers du territoire de Mitoaba se sont échappés il y a quelques jours aux mains des Bakata Katanga. Et ces chefs coutumiers avaient été enlevés alors qu'ils étaient partis au village de Mupanga, à 45 km de Mitoaba centre, pour, n'est-ce pas, négocier avec les miliciens Bakata Katanga et les retours de la paix dans le territoire de Mitoaba. Lorsque même les personnes qui prennent l'initiative, n'est-ce pas, d'aller vers ces miliciens pour essayer de négocier avec les retours de la paix, lorsque ces personnes-là ne sont pas sécurisées, vous ne voyez pas que ça pose un problème sérieux pour essayer de trouver une solution efficace à ces problèmes?
Mais sérieusement, parce que c'est vraiment un problème très sérieux. Ce n'est pas la première fois. Il y a eu même l'autre fois avec Gédéon. Nous avons eu un chef, comment de Mitoaba, le chef là-bas, qui était arrêté par les Mai Mai et qui a échappé à la mort parce qu'il devait maintenant commencer, il avait payé ses chèvres, des moutons et tout ce qu'il avait comme richesse. Et aujourd'hui, nous avons eu l'année passée les 13 chefs coutumiers de Mitoaba qui sont allés pour négocier avec les Mai Mai. Parmi les 13, il y a deux qui avaient pris fuite, heureusement, et qui sont venus porter à notre connaissance au niveau du Parlement cette information-là. Nous avons saisi et le gouvernement provincial et la MONUSCO, nous avons été avec un peu partout pour parler de cette situation-là. Au fait, il y a une insécurité. Parce que les chefs, aujourd'hui, même si on peut nous envoyer, on peut envoyer les chefs coutumiers. Vu ce qui est arrivé avec les autres, les chefs coutumiers ne peuvent pas oser aller entreprendre une négociation avec les responsables du Bakata Katanga. Donc la solution qui est là maintenant, c'est la solution militaire. Il faut qu'on puisse vraiment organiser un ratissage sérieux, qu'on puisse nettoyer tout le village, toute la forêt, et de cette façon-là, comme on a fait à l'Est, quand notre population sera à l'aise.
Merci, honorable, merci. Professeur Félicien Kabamba, qu'est faut-il pour pacifier cette partie de la République? Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Lubumbashi au Katanga.
Maître Machaka, à partir de Lubumbashi, dans la province de Katanga, nous avons préconisé qu'il y ait l'organisation d'un dialogue inter-katangais pour mettre fin à cette situation-là. Lorsque vous voyez les histoires-là qui se déroulent, il n'y a pas un étranger qui se trouve parmi les Bakata Katanga, là. C'est toujours les Katangais. Et quand ils sont en train d'entretuer la population civile, c'est toujours les Katangais qui sont en train de mourir. Alors, pour mettre fin à ça, il fallait qu'il y ait l'organisation d'un dialogue inter-katangais, là où toutes les couches de la population katangaise doivent se retrouver là à l'intérieur, afin qu'une solution viable soit trouvée à cette situation. Et pour moi, je vois qu'il y a une autre raison qui fait que cette situation-là puisse persister, c'est l'injustice sociale. Quand ils vont mettre fin à l'injustice sociale, je crois que cette situation doit mettre fin.
Oui, professeur Félicien Kabamba.
évidemment, ce que vient de dire l'interlocuteur me fait rigoler. Un dialogue, s'il a lieu, ça doit être un dialogue national. Il n'y a pas de dialogue à l'intérieur d'une province. Il n'y a pas de dialogue inter-kibboutien, il n'y a pas de dialogue nord-kibboutien, il n'y a pas de dialogue inter-kibboutien. Ça doit être un dialogue national. Je suis d'accord avec l'idée d'organiser un dialogue, mais ce dialogue doit être national. En fait, si les Katangais ont des préoccupations, ils doivent le mettre sur la table et pouvoir les partager avec tous les autres Congolais. Mais au-delà de ça, moi, je crois que pour mieux pacifier cette partie du pays, ce que j'ai dit auparavant, je le maintiens, il faut que le gouvernement change d'approche. Comment on gère le mouvement insurrectionnel? Un mouvement insurrectionnel, même s'il est petit, même s'il est, il ne s'est pas encore suffisamment armé, il faut l'attaquer à ses débuts. Il faut le prendre au sérieux et il faut avoir une politique de gestion des mouvements armés. C'est ce que le gouvernement n'a pas aujourd'hui. Et il faut absolument que le gouvernement communique sur comment il entend combattre les mouvements armés. Un mouvement, quand il naît, on le touffe dans l'œuf avant qu'il puisse s'organiser et se doter de grands moyens. Et c'est ce que le gouvernement ne fait pas. Deuxièmement, eh bien, il faut recréer l'État. Vous avez entendu les propos à la fois de l'honorable et du Monseigneur. Vous avez l'impression, véritablement, qu'on est dans un endroit où la présence d'État est très minimale. Et en fait, ils vous disent même que l'autorité n'a rien à foutre dans ces milieux. Donc, l'État n'apparaît pas. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces milieux? Il faut, non seulement il faut recréer l'État, mais il faut redéployer l'État. Et vous savez que pour redéployer l'État, il faut asseoir une administration qui soit la colonne vertébrale de l'État, qui informe l'État et qui fait le travail, qu'on sente qu'il y a une présence étatique, à travers un service public bien organisé, mais aussi à travers des représentants de l'État qui sont dotés de moyens pour faire le travail pour lequel ils ont été responsables. Et pour cela, il faut également des services de police et l'armée qui se déploient dans tous ces milieux pour sécuriser à la fois la population et leurs biens. Et c'est ce que le gouvernement ne fait pas aujourd'hui.
Oui, professeur, vous avez suivi Monseigneur Fulgence à la question de savoir qui alimente ces mouvements. Il a répondu en disant que c'était une question énigmatique. Comment expliquez-vous que cette question, personne ne semble maîtriser, n'est-ce pas, les contours de cette question? Quand vous posez la question même aux officiels, ils répondent de la même façon. Personne ne sait qui est derrière ces mouvements. Comment expliquez-vous ces faits-là? Ça sera sur votre conclusion.
Ce serait un peu étonnant, quand on connaît tous les moyens dont dispose le gouvernement, vous citez tous les services de renseignement, vous citez la police, vous citez l'administration, le gouvernement a suffisamment de moyens pour connaître exactement qu'est-ce qui se passe. À moins de dire que les personnes qui sont commises à ces tâches sont incompétentes. Ce que je ne crois pas. Nous sommes dirigés, je ne crois pas que nous serons dirigés par des personnes incompétentes. C'est des personnes compétentes qui certainement ont eu à utiliser les moyens à leur présence pour avoir suffisamment d'informations à connaître qu'est-ce qui se passe réellement. Probablement qu'ils hésitent pour le moment à pouvoir communiquer sur ce qui se passe réellement. Mais il faut qu'ils communiquent pour que la population sache exactement qu'est-ce qui se passe. Mais je ne crois pas à la thèse du genre « on ne connaît pas, c'est un mouvement nébuleux qui sont derrière ». Non, je crois que l'État congolais doit certainement être mieux informé que quiconque.
Monseigneur Fulgence Muteba, vous avez suivi l'auditeur qui a proposé un dialogue inter-katangais, mais le professeur Félicien Kabamba pense, lui, qu'il faut plutôt un dialogue national. Ça, c'est l'une des solutions. Et aussi, il pense qu'il faut recréer l'État et redéployer l'État à travers tous les territoires nationaux.
Oui, je pense que c'est très pertinent. Mais enfin, je crains aussi personnellement qu'on ne puisse trop régionaliser des problèmes qui concernent l'État congolais dans son entièreté. Alors, dans ce sens-là, évidemment, il y a eu déjà ce fameux dialogue, il y a eu des concertations, même si on tarde à pouvoir mettre sur pied les résolutions ici de ces concertations-là. Je dois avouer que, en ce qui concerne notre conflit ici au Katanga, il y a eu effectivement des tentatives de dialogue. Mais ce qui est important, c'est que si on s'engage sur la voie du dialogue, il faut aller jusqu'au bout.
Merci.
Il faut prendre tous les moyens pour aller jusqu'au bout.
Merci, Monseigneur.
Surtout se mettre en position de dialoguer.
Merci, Monseigneur. Merci. Honorable Mouelois, votre conclusion?
Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Je crois que quand on parle du dialogue, on parle qu'il faut un dialogue congolais. Je crois que le dialogue congolais, on a eu quand même, comme vient de le dire, monseigneur, il y a eu des concertations il n'y a pas longtemps l'année dernière. Donc ici, pour le ce qui est de Katanga, ce n'est pas un dialogue avec le Congo.
Merci honorable, merci honorable. Nous sommes malheureusement à la fin de l'émission. Merci, c'est la fin de cette émission et bonne suite du programme sur Radio Okapi.